Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
À toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran, ce mardi soir, 16 mars 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a souhaité le prompt rétablissement pour le président syrien Bachar al-Assad. Le président iranien Hassan Rouhani a salué les mesures prises pour fournir le vaccin COVID-19 dans le pays. Le président du Conseil suprême de la révolution du Yémen a appelé les États-Unis à retirer leurs forces du Yémen. La Russie se dit extrêmement préoccupante face au transfert du matériel militaire turc en Syrie. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. Le guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a souhaité le prompt rétablissement au président syrien Bachar al-Assad après sa contamination par le coronavirus. Le conseiller pour les affaires internationales du guide suprême de la révolution islamique, Ali Akbar Velayati, a transmis lors de sa rencontre avec l'ambassadeur syrien à Téhéran, Shafi Red Ayoub, le message du guide suprême de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, à l'adresse du président syrien Bachar al-Assad, message dans lequel l'honorable Ayatollah Khamenei a souhaité le prompt rétablissement pour le président syrien. Enfin, le président al-Assad est un leader fort et brave qui a joué un rôle très précieux et important dans la préservation de l'indépendance de la Syrie par le biais de la résistance à de toutes les attaques et à tous les complots durant les dernières années de la guerre inégale imposée par les criminels internationaux et régionaux à la Syrie, a-t-il souligné. Le conseiller du guide suprême pour les affaires internationales, le conseiller pour les affaires internationales du guide suprême de la révolution islamique a considéré que la Syrie est l'un des piliers de la résistance dans la région, qualifiant de stratégique la coopération entre les gouvernements et les peuples des deux pays. Le président iranien Hassan Rouhani a salué les mesures prises pour fournir le vaccin COVID-19 dans le pays depuis la Syrie, la Chine et l'Inde, en plus de produire le vaccin contre le coronavirus fabriqué en Iran. Après avoir reçu le rapport sur les mesures prises pour préparer des vaccins sûrs en provenance de Russie, de Chine et d'Inde, le président iranien Hassan Rouhani a salué les efforts déployés pour fournir le vaccin. Rouhani
Rouhani a souligné les mesures prises pour préparer et fournir le vaccin contre le coronavirus pendant les sanctions sont un honneur pour le pays. Rouhani a également noté que c'était un honneur pour la nation iranienne d'avoir pu réussir dans les conditions difficiles et d'épouse de tout flanc de la guerre économique de l'ennemi, à la fois dans le domaine de la recherche et de la production de vaccins faits maison et de la préparation et de la fourniture de vaccins étrangers. Le président du Conseil suprême de la révolution du Yémen a appelé les États-Unis à retirer leurs forces du Yémen. Mohammad Ali al-Houssi a réagi sur son compte Twitter aux récents commentaires d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui avait rejeté toute intervention militaire et influence étrangère au Yémen. Le président du Conseil suprême de la révolution du Yémen a déclaré que les commentaires de Blinken sur le soutien à un Yémen libre de toute influence étrangère étaient positifs. Il a ajouté que les États-Unis devraient appuyer leur intention en mettant fin à leur implication dans les opérations militaires menées par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre le Yémen. Les propos de Blinken portant sur le rejet de toute influence étrangère au Yémen sont positifs et nous attendons à ce que les États-Unis retirent leurs forces de conseillers et armes et qu'ils ordonnent à leurs forces navales de lever le blocus du Yémen. C'est ce que nous attendons et ce sont de telles mesures qui sont conformes à de tels propos, a-t-il souligné encore. La Russie, extrêmement inquiète face au transfert du matériel militaire turc en Syrie. Le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a annoncé que la Turquie transférait du matériel de guerre dans une localité du gouvernorat de Raqqa, une opération qui rend la Russie extrêmement inquiète et qui viole le mémorandum signé entre les deux pays. La Turquie transfère du matériel de guerre dans une localité du gouvernorat syrien de Raqqa, a annoncé le chef adjoint du Centre russe pour la réconciliation de parties en Syrie, le contre-amiral Alexandre Karpov. La Russie est extrêmement inquiète face au transfert de matériel militaire des forces armées turques et à la réalisation de travaux de fortification dans les bases d'appui près de la localité d'Ain Issa dans le gouvernorat de Raqqa, a-t-il indiqué.
Une délégation du Hezbollah en Russie à l'invitation du ministère des Affaires étrangères de la Russie. Une délégation du Hezbollah se trouve en Russie depuis le dimanche 14 mars. Elle est présidée par Mohammad Rad, le chef de son bloc parlementaire Fidélité à la résistance au Parlement libanais. Elle semble avoir un programme chargé, devrait se poursuivre 3 jours. En plus de la rencontre avec le ministre des Affaires étrangères et russe Sergei Lavrov, et puis éventuellement avec les responsables du ministère, il y aura une réunion avec la commission des Affaires étrangères au sein de la Douma avec des responsables du Conseil de l'Union. Elle s'est faite à la demande du ministère russe des Affaires étrangères, indiqué M. Rad dans une interview exclusive avec le site arabophone de l'agence russe Sputnik. M. Rad, il a tenu à y rappeler que la relation entre la Russie et le Hezbollah date depuis plusieurs années et qu'elle est motivée par des points et des intérêts communs. Ce lundi, il a rencontré le ministre des Affaires étrangères russe avec qui il a eu une rencontre entre amis et dans une atmosphère amicale selon lui. Nous avons évoqué les évolutions de la situation dans la région et au Liban et les moyens de consolider la stabilité dans la région pour éviter qu'une puissance ne s'accapare de partout en soutenant le terrorisme et ne s'empare du contrôle de la vie des peuples de la région, a-t-il expliqué selon le site russe RT. L'ambassadeur permanent de la Syrie auprès de l'ONU, Bassam Sapar, a affirmé que certains pays avaient déclenché il y a
10 ans, une guerre terroriste contre la Syrie, envie de porter atteinte à ses options nationales et de viser sa souveraineté, son unité, son intégrité territoriale via des agents terroristes. Mais l'héroïsme et le sacrifice de l'armée arabe syrienne ainsi que la fermeté du peuple syrien avaient mis en échec tous ces plans, aussi l'a-t-il souligné. La mission d'appui des Nations Unies en Libye, MANUL, a salué l'investiture du gouvernement d'Union nationale nouvellement désigné qui a prêté serment devant la Chambre des représentants, Parlement libyen. L'envoyé spécial du secrétaire général en Libye et chef de la mission d'appui des Nations Unies dans ce pays, Jean-Henri Kubis, a salué l'investiture du gouvernement d'Union nationale qui a prêté serment devant la Chambre des représentants réunie en séance à Tobrouk, a déclaré la MANUL dans un communiqué. M. Kubis a appelé la nouvelle autorité exécutive à s'engager rapidement à relever les nombreux défis auxquels est confrontée la population libanaise, à améliorer les conditions de vie et les services essentiels et à préparer le pays à l'organisation d'élections nationales inclusives un peu plus tard dans l'année. La mission a confirmé que ses partenaires internationaux et elle-même se tiendrait fermement prêt à continuer de fournir tout le soutien nécessaire à la population et aux institutions libyennes. Eh bien, chers amis, avec cette dernière nouvelle en provenance de l'Afrique et plus précisément de la Libye, notre journal d'information s'achève. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran exhorte l'Agence internationale de l'énergie atomique à rester impartiale, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a évoqué les récents commentaires du directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi, a déclaré que l'Agence internationale de l'énergie atomique devrait faire preuve d'impartialité en commentant les questions techniques concernant le programme nucléaire iranien pour assurer une coopération mutuelle. Notant que Téhéran a fourni à l'Agence internationale de l'énergie atomique l'accès requis en vertu de l'accord de garantie, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré « La surveillance des activités nucléaires de l'Iran est une question technique ». L'Iran a accordé l'accès requis au titre de l'accord de garantie de l'AIEA. Nous avons donné d'autres accès dans le cadre du protocole additionnel qui a été interrompu par une législation parlementaire. Nous avons également conclu un accord de 3 mois ouvrant une fenêtre diplomatique concernant la prochaine réunion de la commission mixte du plan global d'action conjoint. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que le moment n'était pas encore programmé. Khatibzadeh a également évoqué une réunion tripartite à Doha sur la Syrie et a déclaré que l'Iran soutiendrait toute l'initiative qui aide le processus de paix syrien. L'Iran se réserve de tous les droits de répondre à l'attaque d'un cargo. Téhéran dit qu'il se réserve le droit de prendre toute mesure pour répondre à une récente attaque terroriste contre un cargo iranien en mer Méditerranée. S'exprimant lundi dans son presse hebdomadaire, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a évoqué l'attaque terroriste de la semaine dernière contre le porte-conteneur appartenant au groupe de de la ligne maritime de la République islamique d'Iran, affirmant que l'incident faisait l'objet d'une enquête. Faisant référence à la possibilité d'identifier les auteurs de l'attaque, Khatibzadeh a déclaré, compte tenu de la situation géographique de l'attaque de corruption, il est possible que cet acte terroriste ait été commis par le régime sioniste. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a noté que chaque fois que la région se dirige vers la paix, ce régime israélien essaie de créer des troubles pour une raison claire et c'est qu'il voit toute sa, son existence et sa mort dans la crise et l'insécurité et pense que le chaos peut aider à prolonger sa vie et son existence.
Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat. 10 ans se sont écoulés depuis le début de la guerre menée par les États-Unis, leurs alliés et leurs mercenaires terroristes contre la Syrie. Au cours des 10 dernières années, les États-Unis et leurs alliés ont tenté, en vain bien entendu, de renverser le gouvernement légitime en effet de Bachar al-Assad. Mais la résistance a réussi en effet à vaincre, à déjouer ces tentatives d'une part et d'autre part, bien entendu, à vaincre leurs mercenaires terroristes. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons porter un regard rétrospectif sur ces 10 années de guerre de l'axe américano-sioniste par groupe terroriste interposé contre la nation syrienne. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
En Syrie, dans la zone de désescalade entre Hama et Idlib, une source militaire syrienne a signalé des frappes de l'armée syrienne contre des positions terroristes sur l'axe d'El Ankavi, tuant un grand nombre de terroristes pro-Ankara. Dans le même temps, des terroristes ont lancé des attaques à la roquette contre des positions de l'armée syrienne dans la banlieue sud d'Idlib. En représailles, l'armée syrienne a pilonné les positions terroristes du front al-Nusra dans la banlieue sud d'Idlib et à l'est d'Idlib. Par ailleurs, des sources syriennes ont rapporté que des miliciens FTS, Force démocratique syrienne, ont attaqué un quartier de la ville de Hasake, enlevé des jeunes et les ont emmenés dans des bases militaires. Les FTS ont ouvert le feu sur un rassemblement de résidents qui s'opposaient à l'enlèvement de ces jeunes, ont annoncé les mêmes sources. De nouvelles recherches menées par le Comité international de la Croix-Rouge CICR ont fait part des traumatismes et des souffrances subies par la jeunesse syrienne pendant les 10 ans de la guerre civile. L'étude a été menée sur environ 14 000 jeunes âgés de 18 à 25 ans, à la fois en Syrie et en exil au Liban et en Allemagne. Environ la moitié de ces personnes ont perdu un ami ou un membre de leur famille proche. En effet, les États-Unis prévoient de vaincre la résistance par le biais des évolutions en Irak et en Syrie. Ces agissements interviennent alors que l'axe de la résistance a su surmonter avec succès les pressions des 4 dernières années et peut désormais tracer ses propres lignes rouges face au jeu des Américains. Les administrations de Barack Obama et de Donald Trump n'ont pas réussi à terminer stratégiquement la guerre en Syrie en faveur des États-Unis et du régime sioniste. La Syrie et l'axe de la résistance ont enregistré de grands progrès ces dernières années. a écrit le journal libanais Al-Akhbar dans son dernier article. La présence de l'axe de la résistance dans toute la région s'accroît de plus en plus. La route de Téhéran à Beyrouth, qui passera par Bagdad et Damas, se renforce progressivement. Les États-Unis savent que ce n'est pas seulement une menace pour leur influence militaire, mais cela renforce également les lignes de la résistance et les opportunités d'échange et de développement économique. Il s'agit d'un défi majeur pour les politiques américaines de pression.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité pour cette émission. Nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Philippe Hugon, reporter de guerre et analyste politique. Et depuis Bruxelles, Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, vous savez que c'est un plaisir. Bonjour à mon collègue Hugon, que j'ai grand plaisir à retrouver.
Monsieur Michel, avant d'entrer dans le vif du débat, si vous voulez bien, alors une première question. Quel premier regard portez-vous, un regard rétrospectif bien entendu, sur les 10 années de guerre terroriste sous l'égide en quelque sorte, sous la houlette des États-Unis et de l'OTAN et du régime sioniste contre la Syrie?
La première chose, c'est une imposture. Vous savez qu'on célèbre les 10 ans, les célèbre littéralement, dans la presse occidentale, on parle de démocratie, de droits de l'homme, etc. C'est une imposture. Ce qu'ils ont appelé le soi-disant printemps africain, ça a été une catastrophe globale dans toute l'Afrique du Nord et dans tout le Proche-Orient. Ça a été en fait un long hiver glaciaire, caractérisé même par la disparition d'un État, la Jamaïque américaine, d'un second État, le Yémen, et seule la Syrie à résister. La seconde chose, la guerre de Syrie, c'est la première défaite depuis la chute de l'Union soviétique du camp occidental. Elle a vu de doubles victoires des adversaires de l'Occident. C'est l'émergence de l'Iran comme une grande puissance régionale et l'une des 3 grandes puissances de l'Eurasie en masse. Et c'est le début du chemin pour le rétablissement de la Russie comme une superpuissance mondiale géopolitique. C'est à partir de la Syrie que les Russes sont maintenant installés non seulement au Proche-Orient, mais en Afrique, et qui donnent le pion aux Occidentaux. Globalement, c'est un échec géopolitique, mais hélas, c'est un échec géopolitique qui s'est payé au prix de la prospérité, au prix de la vie même des peuples qui ont été touchés par ce soi-disant printemps.
Merci, merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Monsieur Michel. On va tout de suite rejoindre à Paris Philippe Hugon, reporter de guerre, analyste politique. Monsieur Hugon, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à tous vos auditeurs, bonjour à toute l'équipe et bien sûr à mon ami Luc Michel.
Monsieur Michel a rappelé à juste titre qu'en Syrie, il s'agissait bien entendu depuis en effet l'effondrement de l'ex-Union soviétique, de première défaite, débâcle de l'Occident, des États-Unis à sa tête. Qu'est-ce qui a contribué à cette victoire de l'axe de la résistance contre cette hégémonie en effet américano-sioniste qui, bien entendu, s'est manifesté en Syrie par groupes terroristes interposés?
Oui, alors il y a une précision quand même qui est importante. Il faut savoir qu'en Syrie, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre d'ingérence. C'est-à-dire que la majorité, la très très grande majorité des Syriens étaient pour Bachar al-Assad. Donc ça, c'est un premier point pour lequel l'axe américano-sioniste n'a pas pu imposer sa vision des choses comme elle a pu le faire dans un certain nombre d'autres pays. Il faut savoir que le peuple était derrière Bachar al-Assad et c'était une grande cohérence du peuple syrien. Je me suis rendu de nombreuses fois en Syrie, dans différents coins de la Syrie, et j'avais toujours été très surprise par rapport à ce qui se disait dans les journaux occidentaux, c'est qu'on avait cette cohésion du peuple syrien. Donc ce n'est pas une guerre civile dans le sens où on l'entend, c'est-à-dire des Syriens contre des Syriens, mais c'était une guerre d'ingérence, et cette ingérence venait de l'extérieur, venait des États-Unis. Il faut savoir quand même que Daesh, c'est un produit de la CIA, ça a été créé pour déstabiliser un certain nombre de gouvernements au Proche-Orient. Alors, les raisons sont multiples. On sait qu'on a trouvé au large de l'Afrique de très très grandes réserves de gaz et de pétrole. On n'a pas attaqué, on n'a pas déstabilisé la Syrie pour rien. C'est une guerre d'ingérence, une guerre pour le vol des richesses du peuple syrien. Et heureusement, et je me félicite vraiment du comportement des Syriens par rapport à l'opinion occidentale, ils ont toujours été derrière leur président et l'ont soutenu jusqu'au bout. C'est, je pense, aujourd'hui ce qui explique la défaite du monde occidental en Syrie. Et c'est vraiment une très bonne chose, puisque, vous savez, la France a déstabilisé l'Afrique pendant des années, les États-Unis ont déstabilisé le monde pendant des années. C'est un juste retour des choses, qu'aujourd'hui les choses changent, et changent dans le bon sens.
Merci, merci, Monsieur Hugon, pour ces éclairages. Monsieur Michel, alors, cette guerre d'ingérence, cette guerre de déstabilisation s'est soldée, bien entendu, par un échec. Mais ce qui, en effet, bien sûr, vous l'avez rappelé tout à l'heure, cette guerre a causé des dégâts irréparables à la nation syrienne, à l'économie syrienne. Où en est-on actuellement, justement, de cette guerre d'ingérence ? De cette guerre, de cette tentative de déstabilisation, d'autant plus qu'aujourd'hui même, certaines provinces de la Syrie, entre autres Idlib, Hama, restent le théâtre d'affrontements entre des poches, en effet, restantes des groupes terroristes et l'armée syrienne. Quelles sont les marges de manœuvre des groupes terroristes, d'une part, des États-Unis, qui ont contribué à la création, justement, de ces groupes terroristes en Syrie avec la nouvelle administration américaine?
Écoutez, il faut comprendre quelque chose, c'est que les buts de la Syrie, ce ne sont pas les buts principaux, ce ne sont pas les groupes terroristes ou les groupes sécessionnistes, c'est l'invasion étrangère. Globalement, la guerre en Syrie, militairement, elle est gagnée par l'axe de la résistance et la Syrie. Le Bachar el-Assad gouverne aujourd'hui 85% de ce que nous, les géopoliticiens, nous appelons la Syrie utile. Mais qu'est-ce qui fait que la guerre continue dans certaines provinces? C'est l'occupation étrangère. Des portions entières de la Syrie sont occupées par la Turquie. La Turquie, membre de l'OTAN, je le rappelle. D'autres portions sont occupées directement par les Américains. Malgré la comédie de Donald Trump, les Américains n'ont jamais quitté la Syrie. Ils s'appuient sur une force sécessionniste qui sont les Kurdes, comme les Turcs s'appuient sur les restes des groupuscules terroristes, notamment le Jabhat al-Nusra, qui est Al-Qaïda en Syrie. Al-Qaïda, dont vous avez dit, après le 11 septembre, qu'il était le mal absolu, mais quand il s'est agi d'attaquer Bachar el-Assad, les djihadistes que vous appelez les Taftiris sont devenus des bons alliés de l'Occident. Ils ont alors introduit la notion de bons djihadistes, je les appelle comme ça, de mauvais djihadistes. Le procureur général antiterroriste de Belgique, lors d'un premier procès de terroristes venus d'Occident et revenus en Belgique, a déclaré que ces jeunes gens devaient bénéficier d'indulgence. Il s'agissait de gens liés à Al-Qaïda, on ne parlait pas encore de Daesh, nous sommes en 2014. Ces gens bénéficiaient d'indulgence parce qu'ils étaient allés combattre un méchant dictateur. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui dans la partie américaine. Comme occupant, il n'y a pas seulement des Américains. Il y a des Français des forces spéciales, il y a des Britanniques, il y a des Allemands. C'est cela qui fait que la guerre de Syrie n'est pas encore terminée. Elle ne sera terminée, et moi je le répète, la solution, elle n'est pas politique, la solution, elle n'est pas diplomatique. Vous savez qu'il y a encore eu une réunion tripartite avec les Américains pour tenter de ramener dans le jeu diplomatique leur domestique syrien. La solution, elle est militaire, c'est le nettoyage du territoire national. C'est ce qu'a compris Vladimir Poutine, c'est ce qu'a compris l'Iran, c'est la solution, évidemment, de Bachar el-Assad.
Merci encore, M. Michel. M. Hugo, cette invasion étrangère, cette guerre d'ingérence, alors, quelle dimension elle va prendre avec l'administration Biden en Syrie?
Alors, je ne pense pas que sur le fond, les choses changent beaucoup, que ce soit Biden ou un autre président. Je pense que les Américains cherchent à garantir leur approvisionnement en énergie et cherchent à garantir également leur investissement en géopolitique. Donc, je ne pense pas sincèrement qu'il y ait de gros changements avec Biden. Je souhaite malgré tout qu'il y ait quand même un adoucissement de leur politique étrangère, notamment envers la Syrie, puisque c'est un élément dont on parle peu, mais il faut savoir qu'en 10 ans, il y a eu des centaines de milliers de morts, qu'il y a des centaines de milliers de familles qui sont endeuillées par la perte de parents, de choses comme ça, hein, que ça a créé quand même des famines, que ça a créé des épidémies sur place qui ont emporté beaucoup. Il y a le facteur humain dont on ne parle absolument pas en Occident. Alors en Occident, bien sûr, on aime parler, pour ne rien dire, en parlant des droits de l'homme, en parlant des choses comme ça, alors que nous sommes les premiers pays à bouleverser la vie de millions d'innocents à travers le monde. Donc ce facteur humain, on n'en parle malheureusement jamais. Et même dans les médias français, j'ai jamais vu un reportage sur les crimes commis par les Occidentaux, que ce soit en Syrie, en Irak ou ailleurs. Hein. Donc on va avoir quand même des répercussions dans les années qui vont être quand même importantes par rapport à cette politique. Et le fait qu'il y ait un changement de président, à mon avis, ne changera pas grand-chose sur le fond. On risque de changer les choses sur la forme, mais le fond restera le même. Donc les choses risquent de se passer d'une façon beaucoup plus discrète, d'une façon insidieuse, hein, par le biais de rétorsions économiques, financières, pour essayer de mettre à genoux ce pays. Heureusement qu'il y a finalement en Syrie des alliés quand même qui sont très sûrs de la Syrie. Je parle notamment de la Russie, de l'Iran, de la Chine, et qui sont derrière pour soutenir ce régime qui a été victime d'une très très grande injustice depuis une dizaine d'années aujourd'hui et qui, je le rappelle, a fait des centaines de milliers de morts. Hein. Ça, il faut bien le rappeler. Et c'est, je le dis bien, ce n'est pas une guerre civile, c'est une guerre d'ingérence. On a mis des milliards de dollars pour déstabiliser ce pays, pour le renverser, pour renverser son gouvernement, quels qu'en soient d'ailleurs les dommages subis par le peuple syrien, si on dit non sur l'état de l'esprit de ces gouvernements occidentaux face à la vie humaine et au respect de la vie humaine dans les pays, notamment la Syrie et l'Irak et de nos Moyen-Orient d'une manière générale. Donc je pense que c'est vraiment honteux ce qu'est capable de faire le monde occidental pour essayer de continuer à vivre comme nous vivons aujourd'hui, à vouloir protéger un système de vie qui de toute façon est condamné à terme, hein, on va le voir dans les 10 ans qui viennent en Occident. Donc c'est vraiment une énorme injustice vis-à-vis de ces pays. Et je pense que nous allons le payer très très cher d'ailleurs dans les années qui viennent. Et ce sera un juste retour des choses. Mais je crois que quel que soit le gouvernement américain, la forme peut changer, mais pas le fond malheureusement.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, les séquelles de cette guerre d'ingérence, de cette invasion étrangère, se feront encore sentir pendant de longues années sur la nation syrienne. Et malheureusement, en cette période de souffrance du peuple syrien, les pseudo-démocraties occidentales continuent d'infliger cette injustice. Le dernier exemple, les pays européens se sont opposés à toute normalisation avec la Syrie. Comment expliquer, M. Michel, cette injustice, voire cette imposture?
Il y a pire que cela, c'est la loi de sanction dite loi César américaine. C'est l'imposition d'une guerre économique pour détruire la Syrie, mais aussi le Liban, mais aussi l'Irak, après la guerre d'ingérence qu'on a appelée le soi-disant printemps arabe. Il faut rappeler qu'est-ce que c'est. C'est une opération de remodelage géopolitique. Elle a été suivie par tous les présidents américains. L'aspirateur, c'est Bush 2, avec le Grand Moyen-Orient. Il y a eu le printemps arabe, 2011. 2014, le soi-disant printemps africain, qui est en version en Afrique noire. 2018, il y a la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton. Et aujourd'hui, il y a une radicalisation de l'administration Biden, dont il faut rappeler que ce sont les gens qui ont organisé le printemps arabe en 2011 qui sont en paix, avec notamment des gens comme Biden lui-même ou George Soros, etc. Et donc, la guerre, il n'y a pas de raison qu'elle soit abandonnée. Ce qui a surpris les Occidentaux, c'est la solidité de l'Irak basique. Moi, j'ai assisté deux fois, j'ai assisté à la destruction de la Jamaïca. Vous savez que j'étais dirigeant du mouvement pan-européen des comités révolutionnaires libyens. J'ai vécu sous les bombes de l'OTAN à Tripoli. J'ai vu l'État jamaïcain se disloquer en quelques semaines. Et puis, je suis allé en Syrie. J'ai conduit en Syrie en 2013 la première mission venue de l'Union européenne au début de la guerre. Je suis allé à plusieurs reprises en 2013 et 2014. C'était une époque où on se battait contre les terroristes à l'intérieur même de Damas, mais l'État syrien était solide. L'armée syrienne, contrairement à l'armée de Kadhafi, ne s'est pas disloquée. Et les alliés de la Syrie n'ont pas baissé les bras. Vous savez qu'un des acteurs qui a conduit à la destruction de la Jamaïca, c'est que c'était la Russie de Medvedev et que la Russie de Medvedev n'a pas soutenu la Libye. C'est ça qui a surpris les Occidentaux. Et oui, les Occidentaux, on peut dire qu'ils ont au fond de la cloche leur échec. Ils savent qu'ils ont échoué géopolitiquement. Ils savent que les conséquences sont incalculables pour eux. C'est l'arrivée des Russes, notamment en Afrique. C'est l'échec du printemps africain. Et à partir de ce moment-là, les Occidentaux, évidemment, ne veulent pas la paix, ils ne veulent pas bien être du peuple syrien. Ce qu'ils veulent, c'est le punir, le sanctionner, c'est continuer à essayer d'empêcher la reconstruction de la Syrie, parce qu'ils savent qu'une Syrie reconstruite va être encore plus en opposant la politique occidentale au Proche-Orient.
Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Philippe Hugon, reporter de guerre, analyste politique depuis Paris. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt.
À très bientôt. Voilà, c'est la fin. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à l'actualité de la région de l'Asie de l'Ouest. Donnant pour sortir de l'impasse, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif au sujet de l'accord nucléaire de 2015.
La sortie de l'impasse sur l'accord nucléaire impose un compromis entre Washington et Téhéran, a déclaré lundi le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif au cours d'une visioconférence organisée à Bruxelles. Les Européens sont habitués aux compromis. L'Iran et les États-Unis ne le sont pas. Les Américains ont l'habitude d'imposer. Nous avons l'habitude de résister. Il est donc temps de décider si nous allons tous deux faire des compromis et revenir au plan global d'action conjoint, l'accord nucléaire de 2015, ou si nous allons reprendre nos propres chemins, a-t-il averti lors d'un entretien organisé par le Centre de la politique européenne à Bruxelles. Parvenir à un accord implique toujours un donnant-donnant. Le plan global d'action conjoint présente des lacunes de notre point de vue, mais aussi de celui de nos partenaires occidentaux. Mais quoi qu'il en soit, c'est le meilleur accord que nous puissions avoir, a-t-il expliqué. Nous sommes prêts à revenir au plan global d'action conjoint dès que les États-Unis reviendront sur l'application de l'accord. C'est aussi simple que cela. Nous n'avons pas besoin de négociations supplémentaires, a-t-il réitéré. À cette condition, nous pourrons avoir de nouvelles discussions avec le 5+1. D'ici là, nous ne voyons aucune raison d'avoir des discussions, a-t-il affirmé, rappelant la condition posée par l'Iran pour une rencontre directe avec Washington. L'Union européenne peut jouer un rôle très important pour revenir au plan global d'action conjoint. J'espère que les trois pays européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, et l'Union européenne comprennent également de qui est le coupable et les États-Unis. Pas l'Iran, a-t-il insisté, tandis que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, tente de réunir tous les acteurs autour de la table de négociation. Ansar Allah a visé l'aéroport international d'Abhar et la base aérienne du roi Khaled. Le mouvement Ansar Allah au Yémen a annoncé d'avoir visé l'aéroport international d'Abha et la base aérienne du roi Khaled avec trois drones piégés. Un communiqué diffusé par le porte-parole des forces armées yéménites Al-Sari a déclaré que l'armée de l'air a mené une opération offensive contre des cibles militaires à l'aéroport international d'Abha et la base aérienne du roi Khaled à Khamis Mouchaït, située dans le sud-ouest de l'Arabie Saoudite. Et le responsable d'ajouter que l'attaque a été précise et ce grâce à l'aide de trois drones du type 2CAR. Par ailleurs, le communiqué n'a pas précisé le lieu du lancement des appareils piégés. Cette opération s'inscrit dans le cadre de notre droit naturel de légitime défense pour riposter aux agressions de l'ennemi et son blocus continu contre notre pays, a-t-il poursuivi. Un attentat terroriste joué à Damas, capitale syrienne. Les services de sécurité syriens ont avorté un attentat terroriste qui visait la capitale syrienne de ce lundi 15 mars. Selon l'agence officielle syrienne Sana, citant une source de sécurité, trois terroristes portant des ceintures explosives ont été éliminés et trois autres ont été arrêtés. En coopération avec les honorables citoyens des villes de Zakia et de Kanakar dans la province de Damas, l'opération terroriste contre Damas, qui était planifiée par des terroristes et des groupes takfiristes, a été déjouée, a indiqué cette source. Les attentats à la bombe et les attaques terroristes ont diminué ces derniers mois à Damas et de sa province. L'un des derniers attentats figure l'assassinat du moufti de Damas et de sa province, Cheikh Adnan Afiouni dans l'explosion d'un engin explosif dans sa voiture dans la ville de Koutsayab, précise Sana. Et après 10 ans depuis le début de la guerre en Syrie, le directeur de l'administration politique de l'armée syrienne a confirmé que la situation sécuritaire et militaire de son pays s'était améliorée grâce à la libération de la plupart des territoires syriens du terrorisme et grâce aux réconciliations nationales. L'obscurité prévue au Liban, une production américaine, selon le site d'information libanais Al-Ahed News. Toujours en fait, selon ce site, le spectre de la crise énergétique au Liban plane sur les différentes pages de socialisation, suite aux propos tenus par le ministre sortant de l'énergie, Raymond Qajar, selon lesquels le Liban plongera dans l'obscurité totale vers la fin mars en cours, faute de fonds suffisants pour s'approvisionner en fuel. Alors que l'administration américaine resserre l'étau sur le peuple libanais dans le cadre de ses sanctions multidimensionnelles, la République islamique d'Iran, toujours selon le site d'information libanais Al-Ahed News, a maintes fois présenté des offres pour briser le siège imposé sur le Liban. Mais les parties pro-américaines au pouvoir rejettent d'emblée toutes les offres iraniennes, malgré les facilités de remboursement en livres libanaises. À titre d'exemple, l'Iran a proposé en 2012 de construire 2 centrales d'électricité et de restaurer les réseaux internes au Liban, ce qui assurera bien entendu une solution radicale à la crise énergétique au Liban, dont les projets partiels ont coûté des sommes incommensurables au trésor libanais pendant des décennies. Toutefois, les pressions américano-saoudiennes exercées sur les responsables libanais ont interdit à l'offre iranienne de voir le jour. Certes, il est injuste d'imputer, toujours selon le site d'information libanais Al-Ahed News, au dernier gouvernement la responsabilité des crises qui remontent aux années 1990. Il est également illogique de parler de solutions magiques disponibles, surtout que le gouvernement démissionnaire hésite à se diriger vers les pays de l'Est pour éviter un bras de fer avec les outils américains dans le pays qui reçoivent le mot d'ordre depuis l'ambassade des États-Unis au Liban à chaque échéance. D'ailleurs, ces responsables pro-américains pointent d'un doigt accusateur leurs adversaires qui aspirent à l'émancipation du joug américain et les taxes de responsabilité de tous les maux qui frappent le pays. Pire encore, ils se présentent comme étant les premiers défenseurs de la souveraineté du Liban alors qu'ils ont remis leur pays au bourreau américain. Aucune solution n'est envisageable dans l'avenir proche tant que les pro-américains au Liban tentent d'imposer leurs conditions, dont à leur tête le désarmement du Hezbollah et l'alignement du Liban avec les pays qui ont conclu les accords de la honte avec Israël, toujours selon le site d'information libanais Al-Ahed News. Quant au peuple de la résistance, il est plus que jamais conscient de l'importance de faire preuve de patience et de clairvoyance, envie de remporter la bataille de l'affranchissement économique à travers le désengagement avec les Américains et l'alliance avec les pays de l'Est. En résumé, l'obscurité totale dans le pays sera inéluctable tant que certains détenteurs du pouvoir seront assujettis à la volonté américaine. Les Américains, eux, brandiront la menace du blackout pour ébranler le mandat du président Michel Aoun, qui affiche sans embâge sa solidarité avec la résistance. Et pour Seyed Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Libanais, toujours selon le site d'information libanais Al-Ahed News, il était catégorique face à l'ennemi qui menace d'affamer et de tuer le peuple libanais. « Nous allons te tuer et nous n'allons pas mourir de faim », avait martelé le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyyed Hassan Nasrallah. Eh bien, chers amis, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.